Chapitre 10. Les jours avaient paru interminables à Ginevra pendant l'absence de son mari. Ainsi qu'elle l'avait dit à Don Paolo, elle se trouvait dans la situation d'esprit d'une femme qui se sait trahie, qui se connaît une rivale triomphante. Elle était trop certaine que Silvio était allé revivre ses jours d'amour dans cette France où il avait rencontré, épousé et perdu Hélène. Il reviendrait plus éloigné encore de sa seconde femme, plus disposé à lui en vouloir, d'être celle qui avait remplacé la bien-aimée, d'être pleine de vie, de beauté, quand l'autre n'était que poussière. Elle l'attendait avec angoisse, avec une joie tremblante. Il arriva vers la fin d'un après-midi. Elle le trouva encore amaigri, avec des yeux plus sombres, au fond des orbites creusées. Il fut à son égard comme à l'ordinaire, sans paraître remarquer la joie contenue qui éclairait ce beau regard où la tendresse n'osait trop apparaître. Sur son séjour en France, il se montra bref, peu communicatif, tel qu'il avait été dans ses lettres à sa femme et à son père. Ceux-ci, d'ailleurs, le questionnèrent à peine. Il leur suffisait de remarquer l'expression plus fermée, triste, assombrie, de cette physionomie, pour s'assurer que leurs soupçons étaient fondés. Silvio rapportait de France des regrets plus amers, un souvenir renouvelé, réchauffé. Ginevra avait dit à son beau-père « Je n'espère plus ». Elle se croyait sincère. Au fond, elle le conservait encore, l'espoir timide qu'un jour, Silvio serait tout à elle. Mais au retour de ce voyage, il s'évanouit cette fois. La froideur de Silvio s'accentuait. Certes, il lui témoignait toujours de la sollicitude, s'occupait de sa santé, s'empressait de contenter ses moindres désirs. Mais il saisissait plus encore qu'auparavant toutes les occasions de se tenir éloigné d'elle. Ainsi, il n'avait pas repris ses lectures du soir qui les réunissaient naguère dans l'intimité du petit salon bleu, après que Don Paolo s'était retiré dans son appartement. Il travaillait, disait-il, à un mémoire sur Orsolirini, le jeune sculpteur florentin, autrefois protégé de sa famille. Pour ce motif, il avait fait un voyage à Florence. Il passait en outre à Pérouse 2 ou 3 jours de la semaine. Et quand il était chez lui, Ginevra avait la sensation très nette qu'il s'éloignait d'elle le plus possible en mettant en œuvre toute sa courtoisie pour éviter qu'elle s'en aperçût. Hélas, les prétextes ne pouvaient plus la tromper. Elle comprenait trop quelle indifférence elle inspirait. Peut-être pire que de l'indifférence. Et elle se repliait dans sa douleur secrète, elle montrait maintenant une froideur apparente qui rassurait Silvio, apaisait ses craintes, son angoisse d'être aimée. Juin s'achevait. Les roses couvraient tout et leur parfum, le soir, saturait la tiédeur de l'air. Tchèque rêvait sous les berceaux fleuris et s'y endormait parfois. Elle devenait de plus en plus frêle. Une sœur de Donna Maria était morte à son âge d'une sorte de consomption. Tchèque ressemblait à cette tante. Aussi la mère s'inquiétait-elle beaucoup et consultait tous les médecins du pays. Ginevra envoyait chaque jour l'automobile chercher l'enfant qui passait l'après-midi à la Villa Orchiella. Elle aimait passionnément les fleurs, les roses surtout, et demandait à s'asseoir là où leur floraison était la plus touffue, plus magnifique. Ses doigts maigres, dont la chair prenait une transparence jaunie, maniaient un crochet sans entrain. Près d'elle, Ginevra couvrait de broderies somptueuses la soie blanche d'une chasuble. Parfois, Silvio venait jusqu'aux deux sœurs, causait un instant, grondait fraternellement Tchèque de son manque d'appétit. Puis elle regagnait la terrasse pour l'heure du thé. Des visiteurs arrivaient parfois, des intimes. La comtesse Riesini, le chevalier Barnucci et sa femme, si gentiment laides, le colonel Erelda, un superbe officier d'origine sarde, qu'une cécité presque complète avait réduite à prendre sa retraite, puis la grosse marquise Travenne, qui était une si bonne femme, et ses filles, Lisa la coquette, Brigida la savante, toutes deux à la recherche d'un mari que leur petite dot n'attirait guère. Ginevra se montrait une charmante maîtresse de maison. Elle se forçait à la gaieté, simulait de l'entrain. En dehors de son beau-père, nul ne soupçonnait, autour d'elle, le tourment secret de sa vie. Comment imaginer en effet que le marquis Orchel ne fût pas amoureux de cette belle jeune femme, si bien faite pour le consoler de la douleur de son veuvage? Ainsi passaient les jours. Maintenant, Ginevra voyait approcher le moment tant désiré, celui où elle mettrait au monde l'enfant que voulait Silvio pour perpétuer sa race. Elle demandait à Dieu que ce fût un fils, afin que son mari eût le maximum du bonheur qu'il attendait encore de la vie. Ce petit être faisait le fréquent sujet de leur conversation. Il formait des projets pour lui, pour son éducation. Entre eux, il était le lien qui leur permettait de vivre côte à côte, en gardant au fond de l'âme leur secret, elle son amour sans espoir, lui son amour d'outre-tombe. Un après-midi, Ginevra alla rejoindre dans le jardin sa sœur qui l'y avait précédée. Elle trouva Tchèque étendue à même le sol sous un berceau de roses. L'enfant était couverte de fleurs coupées et ses mains se joignaient sur une croix de feuillages et de roses. Ginevra s'écria « Qu'est-ce que tu fais là? Voyons, Tchèque !» L'enfant souleva son visage maigre, tout blême entre les cheveux bruns épars, et dit tranquillement « Je voulais voir quel effet cela produisait de se figurer qu'on est mort. Quelle idée! Veux-tu bien te lever, retirer tout cela ?» En parlant ainsi, d'une voix que l'émotion enrouait un peu, Ginevra se baissait, enlevait la croix fleurie et prenait les deux mains de l'enfant pour l'obliger à se lever. Tchèque, une fois debout, lui mit ses bras autour du cou. « Tu es fâché? Je ne recommencerai plus, mais j'ai eu cette idée tout d'un coup. Je pensais que, peut-être, je mourrais bientôt. Mais voyons, qu'est-ce que c'est que ces imaginations-là ? » D'un geste inconscient, Ginevra serrait sa sœur contre elle, en regardant avec une inquiétude contenue le petit visage blême aux yeux trop pensifs. Tchèque a dit paisiblement « Cela peut bien m'arriver. Ma tante Marguerite avait mon âge. Mais je n'ai pas peur du tout, figure-toi. Je m'imaginais que mon âme était devant Dieu, bien heureuse, et qu'elle vous voyait, vous aimait toujours. C'était très beau, très bon. Et puis, tu es venu. » Ses lèvres se pressèrent sur la joue de sa sœur, et elle ajouta « Mais j'aime bien tout de même me trouver encore vivante tout près de toi. » Après cela, elle s'assit à côté de sa sœur, et toutes deux travaillèrent en causant d'autres sujets. Mais Ginevra avait été péniblement impressionnée. Silvio s'en aperçut quand il vint un peu plus tard chercher sa femme à l'heure du thé. Il lui demanda, tandis qu'il revenait vers la villa, « Êtes-vous souffrante ou plus fatiguée ?» Elle répondit négativement et lui raconta ce qui motivait son émotion. Il l'écoutait pensivement en regardant Tchèque qui s'avançait à quelque distance devant eux en compagnie du chien de Ginevra. Cet enfant réfléchit trop, beaucoup trop. L'esprit use l'enveloppe. Ginevra demanda avec angoisse « Silvio, croyez-vous qu'on ne puisse la sauver ?»« Mais j'espère que si, au contraire, ma chère amie. Nous ferons tout pour cela, d'ailleurs. Allons, ne vous inquiétez pas ainsi, je vous en prie. C'est une idée surgie dans cette petite tête d'enfant et dont elle ne se souviendra plus tout à l'heure. » Tchèque a toujours des idées sérieuses et longuement mûries. Elle doit penser très souvent à la mort depuis qu'elle se sent plus malade. Mais elle ne paraît pas la craindre. Elle se tut un instant et ajouta « Elle a raison, je voudrais être comme elle. Mais moi, j'en ai peur. » Ils avancèrent un instant en silence. Ginevra s'appuyait au bras de son mari et le vent chaud aux senteurs balsamiques soulevait autour d'elle les plis flottants de sa robe noire. Elle demanda, en levant vers Silvio son regard mélancolique, « Et vous, la redoutez-vous aussi ?» Un moment passa avant qu'il répondît. Ginevra vit un tressaillement glisser sur son visage maigre, le long de ses lèvres ardemment colorées. Il dit enfin, d'un ton lent, avec un frémissement léger, « Je l'ai désiré souvent. C'est la délivrance quand on souffre. » Elle demanda d'une voix basse, hésitante, « Et maintenant ?»« Maintenant ?» Il baissa les paupières, comme pour lui dérober l'expression de son regard, tandis qu'il achevait avec une douceur émue, « Maintenant, je ne la désire plus, puisque vous allez me donner les joies de la paternité. » Ce fut ainsi qu'elle sut que la naissance de son enfant rendrait à Silvio l'attachement à la vie que lui avait enlevé la mort d'Hélène.